Alors, je sais que passer après la musique, c'est pas facile. Mais passer après Fabrice, c'est pas beaucoup mieux non plus, parce qu'il a quasiment vidé de son contenu mon exposé. Déjà en préemptant l'introduction que j'aurais faite en disant que le titre de la conférence était mauvais. Mais puisqu'il en a fait l'aveu le premier, je ne peux plus reprendre cette critique. Et puis... Sur la conclusion aussi, je crois que j'aurais peut-être terminé en des termes moins brillants sûrement, mais en tout cas très proches de ce que tu as, de ce que tu as dit. Alors il ne me reste plus qu'à faire du remplissage entre l'introduction et la conclusion que tu as déjà déflorée. Je salue tous nos amis de Philanthropos, je leur dis à quel point et les hautes autorités de Philanthropos qui m'ont invité, et je les remercie de leur invitation à laquelle je me suis rendu de très bonne grâce, d'autant plus que j'étais déjà venu ici il y a quelques années. Mais je n'arrive pas à me souvenir que c'était à cet endroit-là précis. J'avais l'impression que c'était plutôt une sorte de salle de conférence, un peu pentue, voilà. C'est bien ça quand même. Je n'ai pas perdu totalement la mémoire. En tout cas, une belle assistance. Merci d'être là. Et je voudrais... essayer de remplir ce vide... entre ces deux pôles qu'ont été l'introduction de Fabrice et sa conclusion. C'est vrai que ce n'est pas très facile de se dire qu'il faut faire l'inventaire de nos défaites et de nos échecs, parce que comment défendre la vie, c'est assez simple. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'expérience et un tout petit peu d'âge pour s'apercevoir que ne serait-ce que sur une tranche de 20 ans, les 20 dernières années qui sont... Les 20 années de la Fondation Jérôme Lejeune, qui a 20 ans. Jérôme Lejeune est mort en 94, on a fait la Fondation en 95, ça fait 20 ans. Bon, sur ces 20 ans, nous avons couvert 3 lois de bioéthique, celle de 94, celle de 2005 et puis celle de 2011. Et on a vu toute cette progression, ce cortège de dérives. Et au fond, comment défendre la vie aujourd'hui il faut faire l'inventaire de nos échecs. Ce sont des échecs magnifiques, des échecs triomphants. Il n'y a pas un exemple. Il n'y a pas un exemple de retournement d'une loi mauvaise qu'on aurait retournée en une loi bonne, d'amendement d'une transgression, d'un retour à quelque chose de plus raisonnable. On n'a jamais rien réussi, honnêtement. Et alors. Je crois qu'il faut en prendre conscience, parce que quand on part... Moi, je me souviens, il y a 20 ans, je pensais qu'on allait changer le monde avec la Fondation Jérôme Lejeune et qu'on allait faire des choses extraordinaires, qu'on allait gagner, etc. Parce qu'on était, on est parti fort d'un nom, d'une expérience, on avait un peu de moyens, on avait du personnel compétent, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'on arrive très peu à changer les choses. Alors, il faut quand même partir de ce constat. Il faut quand même partir du constat. Après ça, dans un deuxième temps, j'essaierai de donner quelques éléments d'explication, quelques causes, revenir à quelques causes qu'a d'ailleurs évoqué Fabrice, et puis après ça, évoquer quelques moyens. Mais j'irai assez vite dans ces parties, parce que je voudrais terminer en évoquant la figure du professeur Lejeune, qui est un vivant, justement, un des vivants, un des témoins vivants dont on peut s'inspirer pour faire et dire quelque chose, plutôt être quelqu'un aujourd'hui, qui témoigne de la vie, et c'est finalement le meilleur remède. Et la meilleure façon de défendre la vie. Alors, s'agissant de l'inventaire de nos défaites, c'est un inventaire triomphal. Je crois que autrefois on avait le péché, mais le péché on le cachait, et puis après ça on était jugé, et puis on revenait du bon côté de la ligne jaune, et puis on recommençait à pécher, mais on se cachait toujours autant, et puis on était jugé. Quelquefois puni, et puis on revenait du bon côté de la ligne, etc. On a fait ça pendant 2000 ans, en gros, à peu près. Et puis on a fini par perdre l'habitude de ça au XXe siècle. Même, je dirais encore, la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine manière, ça a été encore un peu ça. Beaucoup des drames et des horreurs du régime nazi ont été découvertes assez tard, ont été cachées, ont été stigmatisés, ont été condamnés, puis il y a eu Nuremberg. Donc ça a été une horreur, et ça a été condamné. Mais maintenant, on a l'impression que ces frontières-là sont devenues floues. Et au fond, on n'a plus rien à cacher, on n'a plus rien à se faire pardonner, et on enfile les transgressions les unes après les autres, en ayant conscience que finalement tout ça est le produit de notre positivisme juridique et du progrès. Et du coup, on est dans une insécurité totale. Alors, je n'ai pas besoin de faire la liste de tout. De toutes ces fautes contre le respect de la vie que nous connaissons. Ça a commencé il y a 40 ans. On vient de fêter l'anniversaire des 40 années de la loi sur l'avortement. Mais cette loi, elle n'a cessé de produire des fruits mauvais. Elle a été vraiment à l'origine de toutes les transgressions ultérieures. Il n'y a pas une transgression ultérieure qui n'ait invoqué le souvenir de la loi sur l'avortement, en disant, en gros, ça a fait une sorte de cliquet, un effet de cliquet. On se disait, mais si on a autorisé la suppression, la mise à mort de l'enfant avant sa naissance, a fortiori, on peut très bien autoriser, par conséquent, la procréation médicalement assistée, qui est plutôt un acte qui va dans le sens de la vie. Si on a autorisé la suppression de l'enfant handicapé avant sa naissance, il n'y a pas de raison de ne pas autoriser non plus l'euthanasie, parce que finalement, c'est moins pire de mettre fin à une existence déjà très, très abîmée ou très âgée. C'est moins pire que de mettre un terme à la vie d'un enfant qui n'est pas encore né, etc., etc. Même jusqu'au mariage homosexuel, il y a eu, parmi ceux qui étaient les propagandistes du mariage homosexuel, des arguments utilisés pour dire, mais écoutez, on a bien autorisé l'avortement, on peut bien autoriser le mariage entre personnes de même sexe. On se demande bien quel est le rapport. En fait, il y a des parentés, bien sûr. Et puis, cette loi elle-même sur l'avortement, elle n'a cessé de devenir de plus en plus insistant, de plus en plus oppressante. Je vous rappelle qu'au départ, elle n'était qu'une dépénalisation d'un acte. Il y a 40 ans, c'était la dépénalisation d'un acte. Et puis, au mois de novembre dernier, le Parlement français a voté le fait que c'était un droit fondamental. Donc, en 40 ans, on a quand même franchi une distance absolument considérable. Dans le cortège de l'avortement, il y a eu, bien sûr, à travers les trois lois de bioéthique, toute la panoplie de l'industrie procréatique qui s'est déployée très largement, et aussi en allant de transgression en transgression, d'effet de cliquet en effet de cliquet, avec l'autorisation de la procréation médicalement assistée en 1994. Et puis, à cette époque-là, j'entends encore le ministre, qui n'était pas ministre à l'époque, c'était le député Jean-François Mattei, le professeur de génétique, élève de Jérôme Lejeune, d'ailleurs, et qui a dit, mais voilà, nous allons autoriser dans la loi la procréation médicalement assistée, mais bien sûr, c'est pour permettre aux couples qui souffrent, etc. Et naturellement, tout sera très encadré. Et puis, les embryons, on n'y touchera pas, parce que ça, c'est sacré. La limite, ce sont les embryons. On ne fera rien avec les embryons, voilà. Parce qu'on avait peur. Déjà, on commençait à pressentir le danger qu'il pouvait y avoir. Et je me souviens que quelques années plus tard, pour la loi de bioéthique qui a été votée en 2005, eh bien, c'était Jean-François Mattei qui était celui qui a conduit la loi. Il était devenu ministre et au fond, c'est lui qui a autorisé ce qu'il avait promis de ne pas toucher 10 ans plus tôt. Donc, en fait, il a déplacé les lignes et il s'est fait l'artisan de l'utilisation de ces fameux embryons surnuméraires à des fins de recherche en disant, dans certains cas, eh bien, écoutez, c'est vrai, il faut s'y résoudre, on pourra utiliser l'embryon dans le cadre de la recherche comme un animal de laboratoire. Mais c'était le même qui, 10 ans plus tôt, disait qu'il fallait naturellement mettre la limite de la transgression, c'était la recherche sur l'embryon. Avec cette formule magique qu'on a utilisée pendant des années, qui consiste à dire nous allons encadrer les dérives. Et en encadrant les dérives, eh bien, on a dérivé avec le cadre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on admet la dérive, on met un cadre doré autour, et puis on dérive avec le cadre. Mais on a toujours la sécurité de pécher avec une main courante, avec une rambarde, parce que même quand on transgresse et qu'on fait quelque chose de mal, on a besoin, finalement, de se tenir à quelque chose. C'est assez étrange de voir ça. Et puis, après ça, eh bien, ça a continué. Il y a eu les tentations sur le clonage, il y a eu l'utilisation de, il y a eu encore d'autres bricolages génétiques et de l'embryon que je vous épargne. Il y a eu, bien sûr, le mariage des personnes de même sexe. Il y a eu, et puis, il y a cette fameuse loi qui est votée aujourd'hui, en ce moment, sur la fin de vie, qui est une loi très dangereuse contre laquelle on ne se bat pas, à mon sens, suffisamment, avec suffisamment de conscience, on voit qu'en gros, les deux grands partis de gouvernement sont à peu près d'accord sur cette loi qui s'appelle, qui porte les noms d'ailleurs d'une personne de la majorité, d'une personne de l'opposition, qui sont tombés consensuellement sur un texte qui, incontestablement, permet bien sûr de mettre un terme à des vies gênantes, avec d'ailleurs un obscurcissement des termes. Je ne peux pas m'empêcher, moi qui commence à être vieux, de faire le parallèle entre ce qu'on a vécu avec l'avortement en 1974 et ce qu'on vit avec l'euthanasie. C'est à peu près la même chose, à peu près les mêmes arguments, à peu près le même terrorisme compassionnel, à peu près la mort, le même mot de la mort par pitié, la mort par miséricorde, et puis une espèce d'effacement sémantique, de terrorisme des mots aussi, qui consiste à ne pas utiliser les vrais mots. Parce que interruption volontaire de grossesse, ça ne veut rien dire, évidemment. Interruption, comme si ça allait reprendre, ça ne reprend pas, jamais. Interruption, et puis sédation. Une fois qu'on a dit sédation, on a l'impression qu'on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. C'est compliqué, sédation. Bon. C'est très curieux de voir à quel point ce sont à peu près les mêmes automatismes, les mêmes schémas qui reviennent pour faire passer les mêmes lois et les mêmes entorses au respect de la vie. Alors ça, ces péchés-là, on les connaît, ces transgressions. Ce qui est plus grave et ce qui caractérise aussi l'époque que nous vivons, et singulièrement l'époque que nous vivons aujourd'hui, pas celle de 45, je dis qu'on est au-delà maintenant, bien sûr, c'est ce que les papes, et singulièrement Saint Jean-Paul II, a utilisé comme terminologie, c'est-à-dire les structures de péché. Et ça, c'est terrible, parce que la structure de péché nous enferme, en fait, et nous corsette, en quelque sorte, dans nos péchés. Quand je dis péché au sens large du terme, bien sûr. Ça, c'est absolument terrible, parce que il y a... Donc cette façon de, sur le plan du droit, d'établir, d'ancrer, d'enraciner, de graver en quelque sorte la transgression dans le marbre de nos institutions. Pour l'avortement et l'utilisation de l'embryon, c'est parfaitement clair. Tout ça a commencé par être d'abord des lois d'exception. On a dit, c'est tout à fait exceptionnel. C'est pour un temps limité en plus. Ce sera pour 5 ans. Après ça, on va réévaluer. On est sûr que quand on commence comme ça, c'est sûr qu'on part déjà sur un mauvais chemin. Et puis après ça, ces lois d'exception sont devenues des lois ordinaires. Et ce qui a été considéré au début, qui devait être tenu pour une dérogation, une exception à un principe, le principe du respect de la vie, eh bien, c'est devenu le droit commun. Ce qui était exceptionnel est devenu le droit commun. C'est le cas pour l'avortement, c'est le cas pour le respect de l'embryon in vitro. Typiquement, la recherche sur l'embryon humain a été considérée dans la loi de bioéthique de 2005 comme étant quelque chose d'absolument dérogatoire, dans certains cas, quand il n'y avait pas d'autres moyens, quand il y avait un enjeu thérapeutique proche, immédiat, très important, on pouvait, dans certains cas, en apportant la preuve qu'il fallait vraiment déroger, obtenir l'autorisation d'utiliser l'embryon humain. Et puis, très vite, on a vu, quelques années plus tard, en 2013, ça y est, la loi de 2011 était déjà changée, et en 2013, eh bien, il n'était plus question de parler de dérogation, d'exception, au contraire, l'utilisation de l'embryon humain sur une paillasse de laboratoire devenait du droit commun. C'est très important de voir cette structuration qui se met en place et qui s'ancre et qui s'enracine, parce que ça n'a l'air de rien. On a l'impression que ce sont des propos de juristes que je vous tiens là, une exception qui devient tout d'un coup le droit commun. Mais ça change complètement les choses, parce que ça veut dire que la charge de la preuve n'est plus la même. Lorsque vous dérogez, lorsque vous êtes dans la position de celui qui déroge, c'est vous qui devez apporter la preuve. Je dois dire que pour avorter, je suis en détresse, j'ai respecté un délai, etc., etc. Maintenant, c'est plus la peine. Tout ça, ça a volé en éclats. Donc, celui qui déroge est dans une position où il doit apporter la preuve de la nécessité pour lui de déroger. Pour l'embryon humain, c'était la même chose. Les chercheurs qui voulaient utiliser l'embryon humain étaient dans une situation contrainte où ils devaient dire « on ne peut pas faire autrement ». Il y a un objectif thérapeutique majeur, etc. Maintenant, c'est fini. La charge de la preuve, elle repose sur les épaules de celui qui veut défendre l'embryon, qui veut défendre le respect de la vie de l'embryon, qui veut défendre le respect de la vie de l'enfant avant sa naissance. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où il est quasiment impossible, juridiquement, de défendre l'innocence. Parce que la société s'est organisée intérieurement de telle sorte que ce soit la transgression qui soit inscrite dans la loi et le respect de l'homme qui soit en dehors de la loi, en quelque sorte. Je prends un autre exemple qui va dans ce sens. Les arguments de la détresse sont partis. L'argument de l'objection de conscience est en train de partir. Le délai de réflexion de la femme pour savoir si elle va avorter, ce délai de quelques jours, c'est en train de partir aussi. Et il y avait aussi cette disposition qui figurait dans la loi, qui était le délit d'entrave. On a dit, mais finalement, voilà, ceux qui vont se battre ou se manifester ou faire des prières ou contre l'avortement, eh bien, ce sera un délit d'entrave. Donc, ils n'ont pas le droit de le faire. Voilà. Donc, en fait, ceux qui défendent, au fond, la vie, se retrouvent exclus du droit. Ça devient du hors-champ, hors-jeu, hors-droit. Et ce délit d'entrave vient d'être encore aggravé avec un délit d'entrave qui s'applique à la communication ou à l'expression autour du respect de la vie. Ça va, au fond, très très loin, parce que nous, on s'aperçoit même que nous faisons souvent des recours en justice pour essayer de défendre la vie. Dans certains cas, nous attaquons certains textes, certains arrêtés de l'Agence de la biomédecine qui utilise les embryons pour la recherche. On a gagné quelques procès, d'ailleurs. On a fait condamner l'Agence de la biomédecine parce qu'on avait gagné... En fait, l'Agence de la biomédecine autorisait des recherches même illégales, en réalité. Bon. Mais en fait, ça devient juridiquement de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Je vous cite encore quelques exemples récents. On a voulu aussi, dans une campagne de publicité, montrer qu'au fond, il y avait plus de respect pour les embryons animaux, d'espèces protégées, que pour l'embryon humain. Et nous avions mis ça en image, en montrant un embryon humain et puis un embryon d'animal dans une publicité que d'ailleurs le Nouvel Observateur nous avait acheté parce qu'on leur avait dit, vous savez que vous êtes en train de... C'est la Fondation Jérôme Lejeune, là. On est en train de vous passer une pub dans votre journal, le Nouvel Observateur, sur le respect de l'embryon humain. C'est formidable, c'est très très bien, etc. On l'a passé. Bon, ça a fait un scandale parce que quand la rédaction s'est aperçue que la publicité avait noué des contacts avec la Fondation Lejeune, évidemment la rédaction s'est mise à genoux pour demander pardon à ses lecteurs. Tout de suite. Mais ils nous avaient fait un prix en plus. Donc, je veux dire, on ne l'a pas dit, mais on aurait pu les mettre en difficulté en leur disant, mais vous lecteurs, de toute façon, vous vous en fichez complètement, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Mais cette publicité-là a été jugée après ça par un jury de la publicité. Le jury, ça existe, il paraît. Jury de déontologie de la publicité. Bon, c'est quand même. Ça existe. On peut ne pas le croire, mais ça existe. Et ils ont jugé que cette publicité était totalement immorale. Et par conséquent, nous avons eu l'interdiction de montrer que l'embryon humain était moins bien respecté que l'embryon animal, ce qui est la vérité. Lorsque vous regardez le code pénal, il y a des dispositions qui punissent ceux qui portent atteinte à la vie d'espèces protégées. Il y a toute une liste d'espèces protégées très considérable. Et on n'a pas le droit, bien sûr, de porter la moindre atteinte au respect de la vie d'espèces protégées, fût-ce en phase prénatale ou même à l'intérieur de l'œuf. Si vous écrasez un œuf de crapaud vert, vous risquez d'aller en prison. Je crois même que si vous cueillez un edelweiss aussi. C'est-à-dire qu'il y a le respect des espèces protégées, animales ou végétales, c'est du pénal. C'est du pénal. Voilà ce que je voulais dire sur ce positivisme juridique qui fait que le droit, en fait, structure, au fond, la transgression qui est très difficile, en fait, d'en sortir. Et puis, bien sûr, sur le plan éthique, comme il n'y a plus chez nos contemporains de différence entre la morale et le droit, et qu'au fond, ce qui est légal est devenu moral, ce qui est terrible, au fond, parce que... Les régimes totalitaires ont prospéré là-dessus, mais pour les gens, c'est terrible. La loi est une bonne fille, la loi nous dit de payer nos impôts, de mettre notre ceinture, de faire le tri des ordures, etc. Nous paye l'école. Bon. Donc au fond, on se dit, la loi, elle est bonne, la loi. Et au fond, les gens, si c'est permis, si une telle ou telle loi de bioéthique permet de mettre un terme à la vie de tel enfant, si telle ou telle loi permet de mettre un terme à la vie de telle personne âgée, on va dire, mais si, la loi le permet. Donc, cette absence de distance entre la loi et... Enfin, ne serait-ce que faire comprendre tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, ce serait vraiment un énorme progrès pour la culture de nos contemporains. Ça, c'est l'inventaire. Cet inventaire-là, malheureusement, il n'est pas très brillant. Alors, quelles sont les causes ? Je vais pas rester très longtemps sur les causes. Je crois que Fabrice en a dit un mot. On peut les résumer en disant que c'est encore une fois quelque chose de très contemporain. C'est après la guerre, ça, bien après la guerre, mais quand même. C'est la mort de l'homme. C'est l'obsolescence de l'homme. L'humanisme est mort, au fond. Il faut vraiment prendre acte de ça. Tout ce qu'on a appelé la tradition humaniste s'est éteinte au XXe siècle. On a vécu dans cette illusion humaniste depuis 250 ans parce que l'humanisme était encore comme un astre mort éclairé par le soleil, comme la lune éclairée par le soleil. Vous avez l'impression que la lune brille d'elle-même. Mais enfin, au fond, elle est éclairée par le soleil. Ce soleil, c'était le soleil du christianisme. Et l'humanisme a été complètement imbibé des valeurs du christianisme, quand bien même, d'ailleurs, les propagandistes de l'humanisme s'en défendaient. Mais au fond, entre le catéchisme enseigné par les hussards noirs de la République du début du siècle et puis certains catéchismes modernes, je pense qu'il y avait peut-être plus de vérité ontologique encore et d'anthropologie dans certains catéchismes du début du siècle enseignés par des bouffeurs de curés, comme on disait à l'époque. Cette époque-là est terminée, complètement terminée. Moi, j'en ai pris conscience de manière assez violente, au fond, en faisant quelquefois des conférences dans des grandes écoles, donc avec des élèves qui réfléchissent, qui sont attentifs, qui sont aimables, etc. Et au fond, quand je leur montrais, à l'occasion des lois de bioéthique, quel était le cheminement inéluctable vers cette marchandisation du vivant, cet effacement du visage humain dans tout ce qu'on peut faire de la technoscience, ils me disaient, mais on comprend très bien ce que vous voulez dire, mais vos indignations ne sont plus les nôtres. Ça ne nous parle plus. Ça ne nous parle pas. Si, effectivement, collectivement, de manière consensuelle, aujourd'hui, nous pensons qu'il est bon de mettre un terme à la vie d'enfants très handicapés, avec tous les égards et toutes les précautions de la médecine, au fond, où est le problème? Si nous sommes tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Si on considère que la vie d'une personne très âgée, qui souffre, peut être abrégée, moyennant certaines dispositions d'euthanasie, si tout le monde est d'accord, où est le problème? Pourquoi vous vous indignez si nous avons tous... Avec des arguments très rationnels, des arguments économiques, des arguments de coût, des arguments de douleur, c'est-à-dire des arguments utilitaristes, au fond. Et nous avons basculé, nous avons changé. Nous ne sommes plus dans l'humanisme. C'est terminé, l'humanisme. Il faut bien voir ça. C'était terminé déjà il y a 250 ans. Bon, mais on s'en apercevait pas, parce que le soleil éclairait encore la lune. Mais au fond, on avait déjà dit la transcendance terminée. On ne veut plus. On ne veut plus. Nous, c'est nous qui sommes notre propre mesure. N'est-ce pas? L'homme est la mesure de l'homme. Avant, c'était Dieu. Nous étions des enfants de Dieu. Le rapport de filiation, c'est fini maintenant. C'est nous qui sommes nos propres parents. Voilà. Et on n'a plus d'autres références. C'était cette énorme garantie qui était représentée par le fait que nous ayons le statut d'enfant de Dieu. Nous a quand même protégés, en gros, pendant quelques centaines d'années, presque deux millénaires, mais c'est fini. C'est totalement fini. Ce n'est plus une garantie. Ce n'est plus une garantie du tout. Je crois que cette prise de conscience-là, elle est vraiment nécessaire. Il ne faut pas oublier de l'avoir présente à l'esprit. D'une certaine manière, c'est l'humanisme qu'on a quand même appelé de nos voeux, qu'on aimait bien. On se demandait, au fond... comment faire pour être encore plus humaniste, pour combattre toutes ces figures d'inhumanité qu'on a connues, en particulier au XXe siècle? Ça, c'est fini, ça. On ne se pose plus la question. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi encore être humaniste? Et c'est vrai qu'on bascule dans autre chose, un post-humanisme. Etc. L'humanisme nous a coupés, au fond, de la paternité divine, qui était une protection considérable. Se dire on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de massacre et d'horreur, mais enfin quand même, on touchait à des enfants de Dieu. Nous avions une dignité qui était d'une garantie très élevée. Et puis après ça, on est tombé de Charybde en Scylla dans l'humanitaire qui était le contraire de la charité ou de la fraternité. Parce que l'humanitaire, c'est être prochain du lointain. Alors c'est très facile d'être prochain du lointain, mais d'être très lointain de son prochain. Au fond, c'était ça. Plus prochain était lointain, mieux ça vaut, n'est-ce pas? C'est ça. Mais le plus proche du prochain, notre plus que prochain que représentent nos enfants à naître ou nos vieillards ou nos personnes malades, il disparaissait du radar. Et puis on est tombé dans l'humanoïde, qui est, au fond, qui a défait, après avoir défait la fraternité, on a défait la filiation, puisque maintenant on parle, voilà, on dit, mais comment bricoler un enfant en bonne santé, qui sera pas comme ci, pas comme ça, qui aura les yeux bleus, qui sera grand. Bon. Vous voyez, cette notion de, elle s'est effilochée, l'humanisme s'est effiloché. À partir du moment où il n'était plus réchauffé par le soleil du christianisme, il est devenu un astre mort et il s'effiloche en humanitaire, il tombe en capilotade et en humanoïde. Alors bien sûr, comme la nature a horreur du vide, eh bien, on assiste au grand remplacement de l'humanisme par des quantités de choses que Fabrice a citées, que ce soit l'idéologie, toutes les idéologies qu'on peut voir, y compris d'ailleurs les idéologies d'autres, de l'islam d'ailleurs, ou c'est bien sûr aussi la technique, la technologie, la technoscience, érigée aussi en idole au fond. Et puis c'est aussi l'écologie aussi, enfin, cette écologie qui est divinisée. Voilà, ça c'est les raisons de cette enfilade de défaites. Alors, je voudrais terminer par que pouvons-nous nous faire par rapport à cela. Je crois que la première des choses, quelquefois quand on demande, je me souviens quand on a demandé à l'Église à certains moments, après les premières lois de bioéthique, je me souviens quand je faisais des conférences, quelquefois, mais que je parlais de la procréation médicalement assistée qui occasionnait des embryons surnuméraires qui sont dans un nombre considérable. Alors après ça, il y a toujours quelqu'un pour dire, mais quelle solution vous avez pour plus qu'on ait d'embryons surnuméraires, vous comprenez? Bon. Et je me souviens, on avait posé un jour la question, je crois, au cardinal Lustiger, qui avait dit, mais écoutez, on peut pas d'un coup de baguette magique rétablir tout d'un coup une situation après avoir violé complètement les termes de la morale, du sens, du bon sens, etc. On voudrait pouvoir, d'un coup de baguette magique, revenir à quelque chose, tout d'un coup, d'antérieur, qui soit une sorte de paradis terrestre. Mais ça c'est pas possible. Donc, en fait, par rapport à la situation que nous connaissons, de cette enfilade de mauvaises actions contre la vie humaine qui nous déçoit, enfin, plus que ça, même, qui nous déprime, qui nous désole. On se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Nous, on est quand même, on essaie de tenir. Il y a l'Église, il y a les familles, il y a des mouvements, il y a des associations. Et puis finalement, on perd, et on voit gagner finalement l'adversaire avec son cortège de marchandisation du vivant, de transhumanisme, d'inhumanité, etc. Alors, je crois que la première chose, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas de solution, de toute manière. On ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vraiment accepté le diagnostic en profondeur et la gravité du diagnostic. Si on pense que c'est uniquement une question de majorité, mais quand il va revenir, ce sera mieux que lui, non, quand il va revenir, lui, ce ne sera pas mieux que l'autre sur ces questions-là, non. Et je pense que c'est la gravité du diagnostic du fait que l'humanisme n'existe plus, et que la lumière de ce qui a été ou ce qu'on a cru être l'humanisme, cette lumière-là, nous ne l'appelons pas suffisamment de nos voeux, elle ne nous éclaire pas suffisamment. C'est ça, au fond, dont il faut prendre conscience. S'il faut prendre conscience du fait que nous sommes dans une perspective d'apocalypse, au sens à la fois de la fin d'un certain monde, même de la fin de l'humanité, d'une certaine manière programmée, que nous programmons, en fait, la fin de notre humanité, de manière plus ou moins consciente. Je ne parle pas des transhumanismes extrémistes qui nous inventent des trucs qui ont assez peu de chances d'advenir, mais quand même, cette mentalité transhumaniste, elle est déjà extrêmement ancrée. Je ne vais pas parler de toutes les étapes eugénistes que nous connaissons, qui sont parfaitement aujourd'hui installées, comme le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, toutes ces techniques-là marchent, fonctionnent, sont financées, ne posent aucun problème à personne, d'ailleurs même à beaucoup de chrétiens, ça ne pose pas de problème. Alors, peut-être quelquefois l'avortement, l'euthanasie, bon, mais la procréation médicalement assistée, ça ne pose plus de problème. Or, ça, on est dans une espèce de chose transhumaniste déjà. Donc, si on n'a pas pris conscience du fait que de cette dimension, à la fois catastrophique, parce que l'apocalypse, c'est dans l'imaginaire, c'est ça, mais c'est surtout autre chose. C'est que derrière, c'est le dévoilement, l'Apocalypse. Ça veut dire que derrière apparaît en positif ce qu'on ne veut pas voir. Et je pense que si on ne comprend pas la situation que nous vivons aujourd'hui comme étant une situation apocalyptique au sens étymologique du terme, à mon avis, on ne comprend rien. On s'imagine qu'on va régler ces questions-là un jour avec une meilleure majorité, comme on règle une question de mur mitoyen, parce qu'on fera une bonne loi. Quelquefois, on nous dit, mais s'il y avait une bonne loi un jour qui nous dise que l'être humain commence à la conception, monsieur Le Menet, vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée? Si vous trouviez un bon parlementaire, et puis il ferait une bonne loi, il dirait, l'être humain commence à la conception. Eh bien, ça réglerait tout. Et puis après ça, vous iriez le dire à la télévision. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que je pense que les exterminateurs nazis savaient très bien que les juifs étaient des êtres humains. Parfaitement. Ils le savaient même peut-être plus que les autres, parce qu'ils étaient plus intelligents et plus cultivés. Donc le fait de savoir, et aujourd'hui on sait quand on pratique l'avortement ou l'euthanasie, qu'on met un terme à la vie d'êtres humains. Donc c'est pas ça la question. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est quel est le sens de l'homme? Qu'est-ce qui l'anime? Qui est-il au fond? Si l'homme, effectivement, n'est que quelques kilos de matière pensante, et finalement quelques molécules agencées de manière un peu plus complexe chez l'homme que chez l'animal, effectivement, il n'y a aucune raison de lui réserver une place particulière. Et c'est exactement le discours que tiennent les transhumanistes, les transhumanistes et puis ceux qui nous parlent d'antispécisme, vous savez. C'est-à-dire que le refus de considérer qu'il y a une distinction particulière dans l'espèce humaine et qu'au fond, il y a dans l'espèce humaine une complexité un peu plus élevée que chez l'animal, mais qu'il n'y a pas de... c'est une différence d'agencement, c'est une différence quantitative, mais pas une différence qualitative. Il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature entre les animaux et les êtres humains. Par conséquent, ils ont le même respect pour les animaux que pour les êtres humains. Et au fond, si c'est ça le message, alors oui, on a rien compris. Et au fond, on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce que l'homme est autre chose qu'un agencement de molécules qui est pratiquement avec les mêmes petites pierre à bâtir que l'animal le plus modeste. Avec, je crois, certains vers de terre, nous avons à peu près le même génome. Donc, effectivement, c'est une question d'agencement et de quantité. Mais nous avons, voilà, ce n'est pas la tradition chrétienne et ce n'est pas la tradition ni culturelle du monde civilisé aujourd'hui de penser ça. Et pourtant, nous sommes en train de quitter ce monde avec, encore une fois, le sentiment d'avoir intégré, et c'est ça qui est le plus grave, je pense, intérieurement une forme de barbarie. Je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est le philosophe. Je pense que c'est le philosophe Mattei, Jean-François Mattei, l'autre, le philosophe qui parlait, je crois, de la barbarie intérieure. Au fond, nous n'avons plus besoin de miradors à l'extérieur. La barbarie, nous l'avons intégrée, et c'est nous-mêmes qui sommes à la fois les victimes, les bourreaux et le camp de concentration. Et ça, quand on n'aura pas compris ça, eh bien, on ne se libérera de rien. On aura beau demander des parlementaires de faire des lois ou aller à la télévision pour faire des débats, ça ne servira à rien. La barbarie, on l'a intériorisée. Bon, c'est la première chose que je voudrais dire dans l'ordre des moyens pour essayer d'avoir un regard positif pour terminer. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut donc se libérer de cette barbarie intérieure et, je crois, prendre conscience de toutes les occasions de complicité que nous avons, en fait, et essayer de rompre, de couper toutes les chaînes de complicité que nous pouvons entretenir. Comme le disait Fabrice, Jérôme Jeune parlait de la sélection surnaturelle. Voilà, pour se battre contre les genders, il faut épouser une femme si on est un homme. Eh bien, pour faire prévaloir le respect de la vie, il faut avoir des enfants, hein, c'est tout. Et il faut en avoir plutôt plus que moins. Et parce que c'est mieux d'en avoir plus que moins à tous égards. Je plaide pas pour ma chapelle, mais il ne s'agit pas de faire des compétitions d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Mais une famille, quand elle peut avoir des enfants, elle a des enfants et naturellement, elle a spontanément plusieurs enfants. Voilà. Et c'est incontestablement la meilleure manière de témoigner du vivant et de l'être vivant. Sachant qu'aujourd'hui, ça prend un relief tout à fait particulier, que donner naissance à des enfants aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une aventure, c'est un feuilleton à épisodes qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'hier. Parce qu'on a les parents, les jeunes parents se posent des questions, ont à se poser des questions, on leur pose des questions, auxquelles nos parents ou nos grands-parents n'ont jamais été affrontés. La médecine présente bien des avantages par ailleurs, elle nous procure de grandes satisfactions, un grand confort pour donner naissance aux enfants et les attendre dans de bonnes conditions. Il n'empêche que les questions qui se posent sont insoutenables et que là encore, on est vraiment dans le drame, souvent très vite, après le bonheur d'avoir conçu un enfant ensemble, tout de suite, le lendemain, ça peut être le massacre des innocents. Le lendemain, on propose, finalement, est-ce que vous allez le garder ? À peine l'a-t-on conçu que le lendemain, on vous dit, allez-vous le garder ? Finalement, ça, cette question-là, on l'a jamais posée à nos grands-parents. Et beaucoup de gens se sentent piégés par ce choix inhumain, ce drame inhumain. Est-ce que je vais sacrifier ? Est-ce qu'il faut que je sacrifie Iphigénie pour que le vent en sens, change de sens et puis que je sois heureux, finalement ? Parce qu'au fond, c'est ça. Mais est-ce que vous serez heureux en attendant cet enfant qui risque d'être handicapé ? Non, je ne serais pas heureux. Vous le feriez, docteur ? Bah, je serais à votre place. Et oui, bien sûr. Oui, ça, c'est du drame, de la tragédie grecque tous les jours dans la vie des jeunes parents. Je termine en disant que, bien sûr, je suis très sensible à ce que a dit Fabrice sur le théâtre. Et je dois dire que ma rencontre avec Fabrice, elle est née de ça, c'est vrai. Elle est née du théâtre, assez curieusement, parce que tu as rappelé mon premier bouquin sur la trisomie est une tragédie grecque. Mais moi, j'ai été frappé par la première pièce que tu as mise en scène. Je ne sais pas si c'était la première que tu avais écrite, que tu as mise en scène. C'était le massacre des innocents. Donc, il y a déjà, je ne sais pas, 10 ou 15 ans maintenant. Le massacre des innocents. Et moi, j'avais été frappé par le fait que cette pièce parlait d'un sujet qui n'était jamais abordé alors qu'on fête les 16 innocents quelques jours après Noël. Alors, on se réjouit à Noël, la venue du Sauveur, c'est formidable, etc., les rois mages, les bergers. Et puis, deux ou trois jours après, dans l'ignorance complète sur le plan liturgique, parce que généralement, c'est entre les fêtes, on va pas trop à la messe à ce moment-là, eh bien, les 16 innocents, c'est l'horreur absolue, quand même. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait le massacre des 16 innocents? Et moi, j'avais jamais entendu d'homélie ou jamais rien lu sur le massacre aux innocents, des massacres des innocents, à part avoir repéré l'iconographie extraordinaire qu'il y a quand même sur le sujet. Mais heureusement qu'il y avait les peintres pour nous rappeler que ça, parce que sinon on aurait complètement oublié le massacre des innocents. Donc j'ai été très sensible à ça, à cette dimension-là. Puis en ayant vu la pièce, j'ai beaucoup aimé, et les autres assez aussi, avec Pasiphaé, qui reprenait aussi des thèmes après que tu as travaillé sur les questions de bioéthique. Donc je voulais dire ça pour dire que cette dimension tragique de l'existence, cette tension tragique dans la vie tout court, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie du monde, moi je crois que si on ne l'a pas comprise, effectivement, on n'a rien compris, quoi. Enfin, on ne peut pas comprendre la vie du monde, et le salut d'ailleurs, apporté par le Christ, sans voir la dimension tragique que ça a représenté. Et ça en donne d'ailleurs à la fois tout l'intérêt aussi sur un plan pédagogique. C'est quand même beaucoup plus facile de suivre une vie qui comporte une tragédie avec une issue heureuse. Bon. Et je trouve que quelqu'un comme Jérôme Lejeune a parfaitement intégré ça lui-même dans sa propre vie, dans sa propre existence. Et il l'a vécu, et je pense que c'est ça qui est le témoignage le plus fort de la Fondation Jérôme Lejeune, le plus fort de la vie de Jérôme Lejeune, dont le nom est porté par la Fondation, par la consultation, et par toutes les actions que nous entreprenons sous le nom Jérôme Lejeune. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous que Jérôme Lejeune était donc le découvreur de la cause de la trisomie 21, la cause génétique, 3 chromosomes sur la paire numéro 21, de cette maladie qu'on appelait autrefois le mongolisme, qu'on appelle encore un peu, quelquefois, le mongolisme. Parce que ces enfants... comme l'avait remarqué en 1866 le docteur Down en Angleterre, Down, qui a donné son nom, Down syndrome, il avait remarqué que ses enfants étaient petits, ils avaient les yeux bridés, ils étaient un peu râblés, les membres courts, et bon, ils ressemblaient à des ressortissants d'Asie et pourquoi pas de la Mongolie. Alors on disait, c'est des Mongoliens. Et puis, le problème, c'est que le tableau clinique était tout à fait juste, enfin, la comparaison valait ce qu'elle valait. Le tableau clinique était juste, mais l'explication pseudo-scientifique qu'on avait voulu en donner à l'époque était catastrophique, puisque on avait dit que c'était une dégénérescence de la race blanche vers la race jaune. Alors vous voyez déjà bon, l'horreur que ça vous pouvait représenter, mais c'était l'époque du néo-darwinisme, etc. L'évolutionnisme, on trouvait ça, c'était à la mode, quoi. Et puis, c'est les pauvres Mongoliens, de Mongolie, qui ont fait les frais de cette comparaison. Alors, je ne veux pas dire qu'en médecine, on a enseigné ça jusqu'en 1960 en France, mais on n'enseignait rien. Bon, donc, le jeune arrive et puis dit, mais déjà, encore à l'époque, et ça a duré des années après, c'est vrai que les enfants mongoliens faisaient l'objet d'une désaffection, on pensait qu'ils étaient contagieux, que leurs parents avaient commis des fautes avant de les concevoir, que le père buvait, que la mère avait des maladies, enfin, était volage, etc. Bon, c'était à peu près n'importe quoi, mais c'était comme ça. Et le jeune arrive en disant, ben non, vous n'avez, c'est pas les parents qui ont péché, c'est un accident chromosomique, c'est une maladie génétique, mais c'est même pas héréditaire, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, et ça se passe une fois, et puis après ça, voilà, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais ça arrive. Voilà. Mais c'est un accident chromosomique. Cette vision des choses était très innovante parce qu'elle permettait déjà de dire c'est pas un enfant du péché, enfin, on peut le dire même sans avoir fait une découverte, mais enfin, c'est vrai quand on peut le dire à des parents en disant mais vous n'y êtes absolument pour rien, c'est pas votre génome qui est touché, etc. C'est plus facile même dans l'accueil et la consultation et puis dans les conseils génétiques qui pouvaient être donnés parce que les parents étaient encouragés à avoir d'autres enfants et les autres enfants n'étaient pas trisomiques. Alors, je dis ça sans aucun jugement de valeur par rapport à d'autres maladies génétiques. Et de ce point de vue-là, la trisomie 21 est une sorte de Rolls de la génétique, parce que quand on a un enfant trisomique 21, eh bien, les autres enfants n'ont pas de chance ou de risque particulier d'être touchés par la trisomie. Il y a d'autres maladies génétiques héréditaires où le risque, bien sûr, est considérable, et c'est encore plus compliqué. Hein. Mais c'est pour ça que c'est assez injuste de voir que le sort s'acharne sur les enfants trisomiques, parce que, très honnêtement, dans le milieu médical des médecins, les médecins disent que c'est la Rolls du handicap. Jérôme Lejeune a fait ses découvertes qui lui a permis de dire tout de suite, voilà, c'est ça, on les accueille, on leur donne une parole de bienvenue, ils sont les bienvenus chez nous, on va s'en occuper, maintenant qu'on connaît la maladie, on va se mettre à les soigner, à les traiter, peut-être un jour à les guérir. Et de ce point de vue-là, il était totalement visionnaire, puisque dans les années 60, c'est lui qui a commencé à dire, la génétique, on va s'en servir, pas seulement pour diagnostiquer, mais on va s'en servir surtout pour essayer de trouver le moyen de mettre en échec les conséquences de ce surplus génétique sur le troisième chromosome qui les rend plus lents et qui fait que, finalement, ils ont des difficultés à s'insérer parce qu'intellectuellement, ils ont des difficultés, des déficiences intellectuelles. Il a été en quelque sorte un peu un des pères de la thérapie génique au sens où il concevait la génétique, non pas dans une dimension sécuritaire comme on le fait maintenant, mais dans une dimension sanitaire pour essayer de guérir, de traiter. Et puis, au basculement de sa carrière, voilà, les choses sont parties dans tous les sens. Parce qu'au même moment, on s'est dit, mais finalement, si la génétique nous donne ces informations sur ces enfants, avec les progrès aussi de l'imagerie médicale, mais tout ça, on peut l'anticiper. Alors, si on peut déjà savoir, grâce au génome porté par l'enfant, grâce à la morphologie qui apparaît sur l'écran, si on peut savoir si l'enfant n'est pas en bonne santé avant, peut-être qu'on peut décider de ne pas prolonger la grossesse et puis mettre un terme à tout ça. Et le jeune a été tout de suite mis rentré tout de suite dans cette histoire dramatique parce qu'il a été celui qui a fait les premiers cariotypes, c'est-à-dire les résultats de l'amniosynthèse. On prélevait le liquide amniotique, on décomptait les chromosomes, et on voyait quel était le génome. Et si le génome était à 47, eh bien c'est que l'enfant a été touché par la trisomie. Donc lui-même était en première ligne pour ça. Et on lui a dit, mais alors vous, le professeur Jérôme Lejeune, qui avait fait une découverte, qui est professeur de médecine, qui est le premier à enseigner la génétique en médecine, parce que c'est lui qui a le premier enseigné, pas lui qui a découvert la génétique, mais il l'a enseigné en médecine, parce qu'on voyait un intérêt médical tout d'un coup, ben vous allez bien sûr vous associer à nos campagnes pour permettre enfin des naissances heureuses et faire en sorte que chacun puisse avoir le bonheur dans sa famille, en ayant les enfants de son choix. Et c'était quasiment ça qui a été dit depuis le départ. Et c'est le message qui continue à être tenu, et le jeune, à ce moment-là, a dit non. Le jeune n'est pas l'homme qui a dit oui, il est l'homme qui a dit non. Et là, en l'occurrence, il fallait dire non. Mais il l'a dit en étant seul, et en ayant contre lui tout le monde politique, tout le monde des médias, une partie du monde médical, et il est resté seul à dire non et à continuer à accueillir ses enfants, à les traiter, à les soigner, et en disant non, aux atteintes au respect de la vie avant la naissance. Et ce combat qu'il a mené, qui a bousculé complètement son existence, parce que du coup on lui a coupé ses crédits de recherche, parce que on l'a ennuyé, enfin pendant toute la fin de sa vie, enfin toute la deuxième partie de sa vie, on l'a vraiment martyrisé. Eh bien, cette existence-là, je pense, elle est complètement symbolique du combat que nous devons avoir. C'est-à-dire qu'il est resté tel qu'il était, ouvert, disponible, professionnel, toujours médecin, toujours scientifique. Mais il avait intégré en même temps cette dimension de dire à un moment donné, non, je dis non, et d'être en quelque sorte martyr sur cette question-là. Et je sais que ça l'a travaillé sur le fond, parce qu'il s'est dit, et c'est un combat éthique que beaucoup d'entre nous portons à différents niveaux, quand nous avons des métiers comme ceux de médecin ou de sage-femme ou de pharmacien, etc. Il disait, mais au fond, tout ce combat que je mène pour le respect de la vie, finalement, ça me gêne aussi pour l'avancée de mes recherches. Parce qu'on m'enlève mes chercheurs, on me ferme mon labo, on m'enlève mes crédits. Est-ce que je ne devrais pas, finalement, quand même dire, bon, je passe là-dessus pour pouvoir continuer à avancer et ne pas prendre de retard dans ma recherche? Et au fond, il a arbitré, je le sais bien parce que j'en avais parlé avec lui, en disant, non, ça c'est plus important. Je continue à faire ce que je peux, mais je resterai ferme sur le respect de la vie, je ne lâcherai pas. Et je sais que c'est une réflexion un peu analogue que celle qu'a eue le roi des Belges au moment où il a refusé de signer la loi, parce qu'on lui avait conseillé, dans son entourage, lui avait dit, si vous vous mettez en retrait, c'est la Belgique que vous menacez, parce qu'on sait à quel point l'unité de la Belgique, c'est la personne du roi. Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous prenez trop de risques, au fond, pour la Belgique, parce que politiquement, c'est vous qui tenez le royaume. Et le roi avait dit, non, ça c'est plus important. Et en fait, il a tenu, contre son entourage, y compris son entourage religieux, je crois, à l'époque, qu'il avait conseillé, peut-être sagement, peut-être c'était le rôle de son entourage de le dire. En tout cas, lui a eu raison de prendre cette décision-là, qui était une décision que lui seul pouvait prendre, et ça n'a pas menacé la Belgique. Et en fait, son nom est resté, et restera aussi dans l'histoire à cause de ça. Voilà ce que je voulais dire sur la personnalité du professeur Lejeune, que nous essayons, nous, à notre modeste mesure, de poursuivre dans la fondation qui a cette consultation très importante sur le retard mental d'origine génétique et puis qui entraîne aussi bien sûr un effort et une stratégie de recherche qui est unique parce que faute de combattants, enfin je veux dire voilà, on n'en avons pas, je dirais, de gloire particulière à tirer, parce que nous avons un héritage qui est très fort, un nom qui est très fort, une ancienneté, une expérience que nous pouvons mettre au profit de la recherche et de la consultation qui sont considérables. Il faut simplement avoir, je dirais, le courage et la sagesse et les moyens de faire avancer en quelque sorte ce brise-glace. La Fondation, j'ai un peu l'impression qu'elle est un brise-glace. C'est pas le bateau le plus gracieux qui soit, le brise-glace. C'est pas très gracieux. Mais au fond, il faut. Et puis, on ne se souvient pas, une fois que la glace est brisée, les autres peuvent passer derrière. C'est pas toujours un rôle très agréable. Donc, nous mettons la barrière assez haut. Mais à bord de ce brise-glace, eh bien, nous avons une cage avec des oiseaux, des canaris ou des serins. Et au fond, les canaris ou les serins, vous savez, ce sont ces petits oiseaux qu'on descendait autrefois au fond des mines de charbon. Et lorsque les oiseaux commençaient à battre de l'aile ou à tousser, on se disait, ça y est, le gaz arrive et il va y avoir un coup de grisou, il faut vite remonter, sinon tout le monde va mourir. Et donc ces petits oiseaux annonçaient le malheur en quelque sorte. Et nous, nos petits oiseaux, là, je dirais, c'est les enfants trisomiques 21. Parce que, incontestablement, il y a focalisé autour de la figure de l'enfant trisomique 21, de manière très symbolique, ce qui nous menace pour demain. Et ce que menace même aujourd'hui. Ce qu'aujourd'hui les enfants trisomiques subissent, on le fera avec l'extension et la marchandisation du dépistage systématique jusqu'aux micro-délétions. On le fera parce qu'il y a un enjeu financier, parce que c'est lucratif, parce que ce sera un moindre mal, par une sorte de bienveillance ou de pitié fallacieuse. Et je pense qu'en étant là, sur la brèche, sur la ligne de crête, en train de défendre les enfants trisomiques, à la fois en leur apportant tout ce qu'on leur doit sur le plan de la médecine et sur le plan de la recherche, parce que, pour une question de justice, Moi, je pense que notre attitude vis-à-vis de ces personnes-là, c'est une attitude de justice. La justice, c'est quoi ? C'est rendre ce qui lui est dû, c'est rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Or, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui leur est dû leur a été volé. On leur vole l'existence, on leur vole les droits à la médecine, on leur vole le droit à la recherche. Nous, on leur rendons ce qui est dû. Et en même temps, on défend ces figures d'humanité qui sont aujourd'hui privées de reconnaissance et d'expression. Je termine juste en citant l'exemple que vous avez probablement vu il y a peu de temps. C'était au mois de juillet dernier, lorsque le CSA a censuré une vidéo que nous avions faite en collaboration avec d'autres pays européens d'ailleurs, des Italiens en particulier, qui s'appelait « Dear Future Mom ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, chère future maman. Je vois quand même des têtes qui bougent, donc je me dis quand même qu'il y en a qui l'ont vue. Elle a été vue 6 millions de fois. Elle a été tweetée par le Premier ministre italien. Elle a été présentée à l'ONU. Elle a eu des prix à Cannes. Pas les escaliers avec les marches, les tapis rouges, mais il y a après ça des prix plus techniques. Et le CSA a sorti un texte en disant c'est pas possible de montrer ça, de montrer le bonheur des enfants trisomiques à la télévision, c'est pas possible. Les enfants trisomiques, votre bonheur, vous le montrez, mais à la cave, dans les catacombes, en dessous, les tunnels du métro, tant que vous voulez, les garages, mais pas à la télévision. Ne soyez pas heureux à la télévision, les enfants trisomiques, parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que ça peut éventuellement éveiller la conscience de celles qui auraient fait un choix différent. Autrement dit, pour ne pas porter atteinte aux femmes qui auraient mis un terme à la grossesse d'enfants handicapés, eh bien, il ne faut pas que les enfants trisomiques montrent un visage heureux à la télévision. Et ce message de cette vidéo n'avait aucun caractère idéologique, c'était simplement des enfants qui disaient « on est heureux de vivre », enfin c'était un message tout à fait banal, mais le simple fait de montrer le visage de ces enfants handicapés heureux a été considéré comme une agression par ceux qui voulaient défendre le droit à l'avortement, d'ailleurs ça a été justifié comme ça par le CSA. C'est-à-dire que le droit fondamental à l'avortement permet de faire taire les survivants de l'avortement. C'est ça au fond. Le CSA, organisme d'État, en fait, interdit aux survivants de l'avortement, puisque 97% des enfants trisomiques 21 sont avortés, donc c'est le plus grand génocide sous bannière médicale, et le premier d'ailleurs qui existe, eh bien les quelques survivants de l'avortement qui, à la télévision, disent « on est heureux de vivre », et d'ailleurs c'est vrai qu'ils sont heureux de vivre, eh bien sont censurés par un organisme d'État qui dit « vous n'avez pas droit d'être heureux devant tout le monde, parce que le droit à l'avortement risque... » finalement d'en pâtir, on va considérer, ça va torturer finalement la conscience, donner bonne conscience aux femmes qui ont fait un choix différent. Donc je ne sais pas si vous pénétrez un peu le fond de cette remarque, qui au fond est très grave, c'est très très grave, parce que, comme je vous le disais, je reviens à mon point de départ, il n'y a plus de défense. Si même les survivants de l'horreur ne peuvent pas dire qu'au fond ils sont heureux de vivre, je veux dire, on est dépourvu de moyens. Donc voilà, je termine sur ces propos en restant dans la philosophie et l'action qu'a été celle de Jérôme Lejeune, c'est d'être au service des plus modestes et de jamais perdre l'espérance qu'il a toujours tenue éveillée jusqu'à la fin de son existence, sans jamais d'ailleurs être un être ni de tristesse, ni de désolation, ni de complainte. Il incarnait la forme la plus exigeante qui soit de la vie chrétienne, et celle à laquelle nous sommes tous appelés, mais qui est la plus difficile à obtenir et à faire et à réaliser en soi-même, c'est la joie. Et c'est ce qu'il avait, et c'est ce que je voudrais laisser à la Fondation et vous laisser à vous aussi. Merci de votre attention.